Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de G comme Odéon. Au sommaire cette semaine, la fine équipe au complet pour débuter cette année avec de belles découvertes et des incontournables de l'actualité culturelle de notre ville. Nous recevons Astrid Faure, cofondatrice d'Encaval, un jeu d'enquête pour enfants 100% déconnecté. Gaëlle nous parle de la double programmation du photographe Zachary Gaudriot-Roy à Le Simone et à l'Abat-Jour. Guillaume fermera la marche avec Séverine Daucourt qui sortira son nouveau balado-livre Transparaître. Et bien entendu, nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. On débute avec vous, Astrid Faure. Nous avons eu envie d'évoquer le jeu que vous avez imaginé pour les 7-12 ans, 100% déconnecté. Il s'appelle Encaval, tout simplement. Jeu d'enquête créé en France avec des matériaux éco-responsable. Alors Astrid Faure, on avait déjà parlé de vous quand vous étiez bébé, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire au tout début de l'aventure Encaval. Donc Encaval a été créé il y a 4 ans, vous m'avez dit déjà, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et effectivement, on voit qu'il y a eu une évolution, donc ce sont des boîtes cartonnées, les enfants reçoivent d'abord leur premier kit, puis ensuite ils reçoivent des énigmes par la poste. Racontez-nous comment est née cette histoire d'Encaval.
Encaval, littéralement, c'est la fuite, l'évasion vers l'imaginaire. On propose aux enfants et à leurs familles de s'enfuir vers des univers merveilleux et qui leur sortent de leur quotidien, qui leur donnent à voir leur monde autrement. Et donc, on a eu envie, avec Margot, mon associée, de remettre au centre des pratiques qui peuvent sembler aujourd'hui un petit peu peut-être désuètes, comme le courrier postal par exemple. Mmh. Et en fait, le courrier postal, c'est plus moderne que jamais. Et nous, on a eu envie de le rendre aussi cool et aussi addictif qu'une série télévisée ou qu'une tablette. Mmh. Et grâce à notre univers de l'Académie des enfants espions et notre univers graphique hyper riche et hyper bien, on a la démonstration, du coup, depuis nos débuts, on a un peu plus de 30 000 familles qui ont été abonnées en cavale, qui sont abonnées en cavale. Et ça, c'est la démonstration que c'est possible de faire rêver les enfants et de les rendre accros à des choses géniales et intelligentes, parce que ça les fait lire et écrire sans écran.
Alors, il y a plusieurs séries d'histoires. Hein. Vous les emmenez sous la mer, vous les emmenez proche des étoiles. Vous avez eu envie de créer des univers comme ça. Comment tout ça est né? De votre imaginaire d'abord, et puis ensuite vous avez cherché de la validation auprès de psychologues, d'enseignants. Enfin, comment on fait pour dire, mais qu'est-ce qu'ils aiment les enfants de 7-12 ans? Moi personnellement, je ne sais pas. Enfin, j'ai oublié.
Déjà, je tiendrais à préciser que Margot et moi, on a des âmes de gamines, je pense. On est des joueuses dans l'âme, on se marre tout le temps, et surtout on a une espèce de passion, une vraie passion en fait pour la littérature jeunesse, les jeux, même encore aujourd'hui. Alors maintenant je suis maman, en 4 ans je suis devenue maman, mais même avant ça je passais ma vie dans les librairies, mes rayons jeunesse quoi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, mon univers graphique, etc. Donc ça déjà c'est d'une part c'est ça. Puis après pour la question des thèmes, en fait la question est assez simple pour nous parce qu'on essaie de s'attacher à traiter des thématiques qui soient à la fois universelles et intemporelles et a priori non genrées non plus parce que c'est hyper important pour nous d'intéresser autant les petits garçons que les petites filles. Et puis ensuite, donc ça on a commencé comme ça sans trop demander leur avis parce qu'on n'avait pas forcément de clients au début, c'est venu au fur et à mesure. Et maintenant on a la chance d'avoir une super communauté qui est hyper impliquée.
Et qui vous fait des retours.
Qui nous fait des retours incroyables et en fait qu'on se permet de solliciter pour leur demander leur avis. On fait de la co-construction avec eux et donc on leur demande leur avis sur quel serait le prochain thème que vous aimeriez voir traité. Donc là le dernier qui est en date c'est les sciences et la magie. Le prochain, ça va être les voyages et les grandes découvertes. Et donc, on répond en fait limite en direct et en flux tendu aux demandes de notre communauté qui est hyper en demande. Et grâce à ça, on fait des thématiques encore une fois, naturalistes, universels et qui ne sont pas marqués dans le temps sur une époque donnée.
Je le disais, on reçoit une boîte. Ça, c'est la première boîte du petit espion. Hein, donc, il y a un kit, il y a différentes choses, un guide, un livre, une petite brochure. Bref, on explique le début de l'intrigue. Bon, ça, c'est le starter. Et après ?
C'est exactement ça, c'est le starter. Et je rajouterais même que, pour aller beaucoup plus loin, c'est que quand... imaginez que vous avez 8 ans, vous allez relever le courrier dans la boîte aux lettres un beau jour, et vous découvrez une boîte qui vous est personnellement adressée, vous l'ouvrez, et vous apprenez que vous avez été choisi, Gaëlle, pour faire partie de l'Académie des enfants espions.
Ça donne une responsabilité quand
même.
C'est
un truc de ouf. Vous avez été choisi, on a besoin de vous personnellement pour devenir l'acolyte de l'agent Astro, etc. Et donc ça c'est le début, comme vous l'avez très bien expliqué, de son parcours à l'Académie des enfants espions, en tout cas d'un bout de parcours, en l'occurrence une enquête. Donc là par exemple c'est l'opération Eureka Dabra sur le thème des sciences et de la magie. Et ça va suivre une enquête qui se suit dans le temps pendant plusieurs mois. Donc à la fin de l'épisode 1, l'enfant est invité à remplir son rapport d'enquête pré-rempli. Donc il écrit dedans toutes ses trouvailles
le
bulletin réponse, exactement, qu'on a maintenant appelé le rapport d'enquête pour être encore plus dans la thématique. Il le renvoie à l'Académie des enfants espions, donc nous, en cavale, à Lyon. Donc tous les jours, on reçoit des tonnes de courriers du facteur qui nous renvoient personnellement les courriers des enfants espions. Et le mois suivant, l'enfant reçoit la suite de l'aventure. Donc ça se suit vraiment dans le temps, vraiment à la manière d'une série qui s'enchaîne épisode après épisode sur des saisons. Et donc nous, on a développé plusieurs thématiques. Donc une enquête, par exemple, l'enquête Eureka Dabra, elle dure 6 mois. Donc il y a 6 épisodes, ça peut durer jusqu'à 6 mois. Et ça, on l'a décliné en 4 thématiques. Les fonds marins, les insectes, les sciences et la magie et l'espace.
Donc les parents ou les grands-parents ou les tantes, les oncles peuvent offrir un jeu en cavale pour leurs enfants ou leurs petits-neveux, etc. Et finalement, c'est le début de l'aventure. Sur 6 mois ou sur 1 an, comment ça se passe ? Il y a des abonnements ? Comment ça fonctionne exactement ?
On propose des offres adaptées à tous les budgets et tous les besoins. Si on veut faire un cadeau, si on est un grand-parent, si on veut faire plutôt... on n'a pas tous les mêmes besoins selon si on est grands-parents, parents, tonton, tata, etc. Donc on a adapté nos offres. Donc soit on s'abonne sur la durée sans durée d'engagement déterminée. Donc ça veut dire qu'on peut s'abonner très bien pour un an, enfin jusqu'à ce qu'on en ait marre. Et on peut très bien enchaîner plusieurs thématiques. Donc à la fin de Eureka Dabra, par exemple, on peut enchaîner avec l'opération Maelstrom, etc. Et on a aussi des formules de pack. C'est-à-dire on prépaye d'un coup... pour 2, 3, 4 épisodes et puis ça se suit, puis du coup les parents peuvent éventuellement prendre le relais si jamais c'était un cadeau de la part des grands-parents, etc. Et puis je voudrais signaler aussi que depuis nos débuts, donc évidemment on a le jeu dont on vient de parler depuis le début de l'enquête par courrier, et on a décliné nos autres produits, en fait on a sorti d'autres typologies de produits donc qui sont toujours des enquêtes, toujours sans écran, mais qui ne se font pas forcément sur la durée, qui se font plus en one shot, en une fois, d'accord, ou en famille, etc.
Ça, où on peut faire participer finalement les membres de sa famille, le frère, la sœur, l'oncle, exactement, la tante, le papa, la maman.
En fait, notre but, au-delà de réveiller l'imaginaire des enfants, c'est aussi de fédérer du lien familial, de créer des moments de rencontre, des rendez-vous quotidiens. Par exemple, on a sorti un calendrier de l'Avent.
Ce que vous disiez en partenariat avec...
avec Nature et Découverte.
Nature et Découverte.
Qui nous distribue. Eh bien, le principe du calendrier de l'Avent, c'est que vous avez un décor en carton qui se monte, etc. On a 2 sur le thème de la montagne et du voyage en train. Et le principe, c'est que tous les jours, on écoute, donc via un podcast dédié, 5 minutes d'histoire. Et donc, 5 minutes pendant 24 jours, ça fait une grande histoire, une grande enquête merveilleuse. Et c'est vraiment un rendez-vous familial. Et à la fin de chaque épisode des 5 minutes, à chaque épisode, il y a une enquête, une énigme à résoudre. Et qui forme, au bout des 24 jours, une grande histoire, quoi. Donc ça, c'est vraiment le rendez-vous familial par excellence, qui crée un quotidien, un rituel, qui déconnecte les uns les autres de leur téléphone, de leur tablette, etc. Parce que c'est très facile de sortir ça quand on est à table. Bah, en fait, non. On a fini le repas, on n'est pas tous le nez dans sa tablette, on fait le calendrier en cavale, et tout le monde se marre, et le lien se reconstruit, et en fait ils vivent des choses, on propose des expériences. Et c'est ça que les familles aiment bien, en tout cas c'est les retours qu'ils nous font, et on est très heureuses de ça.
On voit bien que 30 000 satisfaits, 30 000 personnes qui sont déjà familiarisées avec vos jeux, c'est important parce que finalement, la question des écrans aujourd'hui est extrêmement sensible. Hein. Vous le dites d'ailleurs dans votre communiqué de presse, hein, j'ai retenu 77% des adultes estiment passer trop de temps sur Internet, 74% le pensent pour leurs enfants aussi. Un Français touche en moyenne 2800 fois par jour son téléphone. Moi, ça m'a fait tourner la tête, hein, j'avoue qu'effectivement, on voit bien en fait que la dimension digitale aujourd'hui a pris énormément de place dans nos familles, autour de la table, hein, vous l'avez précisé, et effectivement, c'est une façon peut-être différente d'envisager le lien, la famille, etc. Autre élément et autre engagement d'Encaval, auquel vous tenez particulièrement, c'est que tous les éléments sont fabriqués en France, le carton, le bois, etc., et sont éco-responsables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez. Il n'est pas du tout question, en fait, hein, de faire faire votre boîte, je ne sais où, en Espagne ou en Argentine. Enfin bref.
Ah non. On partage même nos bureaux avec la société qui nous fournit les boîtes en carton et dont l'usine est à Saint-Étienne, à moins de 50 km d'ici. On y va régulièrement, enfin, on sait d'où ça vient. Mm-hmm. C'est hyper important pour nous et on s'y tient.
Ouais, ouais. Ça, c'est. Je pense que c'est important aussi pour vos clients. Est-ce que vous avez des retours dans ce sens ? Alors évidemment, c'est pas les parents, enfin c'est pas les enfants qui vous donnent ce genre de retour, mais plutôt les parents. Est-ce que c'est un argument en fait supplémentaire pour vous faire confiance ?
Je dirais que c'est un argument supplémentaire. C'est pas forcément encore l'argument principal.
Bien sûr.
Mais en tout cas, il y a des parents que ça touche beaucoup. Et c'est un plus en fait, évidemment, si on leur dit c'est trop cool et en plus c'est fait en France,
Ouais.
Ça rajoute à la réassurance et ils nous font confiance. Puis en plus, ça contribue aussi au sentiment d'appartenance quand on leur dit que nous, notre bureau il est à Lyon, que les boîtes elles sont fabriquées à Saint-Étienne, que le studio d'enregistrement il est à Lyon aussi ou à Grenoble. Enfin, en fait, c'est très Rhône-Alpes, les gens sont fiers de participer
à un événement finalement et un lien,
voilà. Économie locale,
bien sûr,
en toute transparence.
Oui, parce que dans ces boîtes, il y a toutes sortes de choses. Là, notamment, il y a la petite règle d'espion. Hein, est-ce que vous voulez nous décrire ça, justement, pour nous montrer un petit peu, Astrid, à quoi sont confrontés les enfants ?
Alors, je ne sais pas si je peux, parce que ça, c'est un élément top secret.
Ah, c'est top secret, d'accord.
C'est un père des adultes. Mais si vous avez un enfant, je peux quand même vous en parler un peu. Bon, c'est parti.
Allez.
Ça restera entre nous. Hein. Donc ça, c'est une tablette cryptographique. Ça veut dire que c'est une tablette pour décoder des messages top secrets grâce à des correspondances de lettres et de symboles. Et là, en l'occurrence, on a les lettres de A à Z avec des symboles issus du zodiaque ou des éléments naturels. D'un côté, du coup, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, quand on retourne ce réglet, il y a des mesures de 1 à 20 cm, un peu comme une règle. Mm-hmm. Et ça, c'est une petite baguette magique indispensable pour résoudre la grande enquête opération Eurekadabra, qui est donc sur le thème des sciences et de la magie, parce que les enfants sont amenés à s'en servir à chaque épisode. En plus de ça, ils peuvent la mettre dans leur cartable pour s'en servir
comme réglé
exactement.
Ça peut être utile
comme
également.
Ça, ils peuvent parler de l'Académie des enfants espions à tous leurs copains.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Astrid Faure. Encore plein de bonnes choses pour cette aventure en cavale. Encore plein de voyages. Est-ce que il y a une nouvelle boîte qui va sortir bientôt ? Là, vous en avez trois. Il y a trois coffrets.
Dans ce que je vous ai présenté, effectivement, l'enquête par courrier, elle est déclinée en même quatre.
Quatre.
Je n'ai pas tout amené aujourd'hui. Mais la grande nouveauté en 2023, attention, c'est une exclue. Il va y avoir trois grandes nouveautés, des grandes innovations, donc toujours sur le fil rouge de l'enquête sans écran. L'innovation numéro une, ça va être un jeu pour les petites vacances. Donc entre chaque période de vacances de scolaire, il y a des vacances de 15 jours, comme à Pâques, à la Toussaint, etc. Donc ça, on va sortir une enquête qui dure 7 jours. Et a priori, c'est une nouvelle gamme de jeux qui pourra se faire. Il y en aura 6 dans l'année. Donc là, on commence par une au printemps. Ça va sortir pour le printemps et c'est celle-ci qui va être sur le thème du voyage. Ensuite, on va sortir un kit d'enquête pour animer un anniversaire en groupe. Et ça, c'est nouveau parce que c'est pas encore quelque chose qu'on a élaboré. Et c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. Ça, encore une fois, c'est de la co-création. C'est des conclusions qu'on a tirées après avoir parlé avec nos clients et les familles. Donc, animer un anniversaire en cavale autour de l'Académie des enfants espions, etc. Un kit clé en main qui demande peu de préparation de la part des parents.
Des parents.
Voilà. Et la troisième grande innovation de cette année, ça va être qu'on va sortir un jeu pour les enfants qui ne savent pas encore lire à partir de 5 ans.
Et ah oui, d'accord.
Pour Noël 2023.
Ça, on voit que la maman que vous êtes est intéressée en fait par ça. Hein.
Ouais. Ouais, elle est encore vraiment petite la mienne, elle a 1 an et demi, mais comme ça, quand elle a 5 ans, elle est prête.
Elle pourra.
Exactement.
Ok. Eh bien, merci beaucoup, Astrid Fort.
Merci à vous.
Encaval.fr, bien sûr, pour prendre des abonnements, pour découvrir cet univers graphique qui est absolument sublime. On en a là sur la table. Il y a plein de choses. On est ravis, en tout cas, de savoir que c'est lyonnais. On est assez fiers. Merci
super
beaucoup.
Lyonnais. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Nous poursuivons notre émission avec toi, Gaëlle. Tu vas nous parler d'une de tes passions, la photographie, et plus précisément de la double programmation proposée par le photographe Zachary Gaudriot-Roy à Le Simone et à l'Abat-Jour. C'est pas facile, Le Simone. Hein. Voilà, tout à l'heure, j'ai un petit peu... Hein.
Alors, coup de cœur hein, pour ce photographe lyonnais, Zachary Gaudriot-Roy, qui expose donc dans deux lieux. Le Simone, tout à la fois café et espace polyvalent de rencontres et de coworking, qui accueille donc la première exposition Traverse au pluriel, hein, j'insiste, et la deuxième exposition qui s'intitule Percer une mythologie du paysage est quant à elle programmée à l'atelier-galerie L'Abat-Jour où Zachary Gaudriot-Roy expose en tandem avec Fanny Van de Candelaar, je suis désolée si j'écorche son nom. Pour Traverse, donc la première exposition, le photographe travaille la notion de frontière, qu'elle soit physique ou mentale. Physique, elle s'incarne dans des prises de vue urbaines où l'artiste isole les façades de maisons, de boutiques ou d'immeubles. Ce façadisme techniquement délibéré donne à voir le bâti de la ville sous un autre angle. Ainsi détourées et mises en exergue, les façades de notre quotidien questionnent et nous portent à une déambulation où le magique côtoie le fantomatique. Que voyons-nous le plus au final ? Le vide autour des façades ou le plein de ces fragments construits ? Cette approche m'a fait songer au concept de ville simulée, une ville gagnée par la prédominance de l'illusion, où l'architecture exprime simultanément le monde physique et le monde virtuel. Travail troublant et de facto envoûtant. Pour Zachary Gaudriot-Roy, amateur de flânerie dont baudelairienne, hein, sachez que ce photographe écrit aussi, ainsi que des hasards heureux de l'errance, il a commencé par être flâneur urbain, puis périurbain, puis rural. Le dialogue entre le vide et le plein sous-tend sa démarche. Cette réflexion sur les choses qui passent et celles qui perdurent sollicite aussi notre imaginaire. Quand la frontière est mentale, donc plus irréelle, le photographe arpente la campagne et façonne des paysages nocturnes spectraux qui frôlent le surnaturel. La frontière se fait alors plus ténue et les représentations plus fantastiques et éthérées. L'exposition Traverse propose un itinéraire délicat et surréel qui joue de l'apparition et de l'éclipse. À l'atelier-galerie L'Abat-Jour, espace que Zachary Gaudriot-Roy a ouvert lui-même en 2011, en bas des pentes de la Croix-Rousse, l'exposition Percer une mythologie du paysage a pour point de départ les instants propices à la résurgence de paysages qui nous parlent, même lorsqu'ils ne sont plus là. Montrant ainsi que nous les traversons autant qu'ils nous traversent, pour citer l'artiste. L'errance physique ou mentale présente dans la première exposition est toujours vivace dans la deuxième. Le dénominateur commun s'incarne dans le terme « fugue » que Zachary Gaudriot-Roy aime citer. À l'Abat-Jour, je vous invite à noter l'attention toute particulière portée à la scénographie. Les photos de différents formats se déploient comme des notes sur une partition. Les lignes se font musicales et les images dialoguent avec l'art du contrepoint. Dans la fugue musicale, on a l'impression que le thème fuit d'une voix à l'autre. Dans l'exposition « Percer une mythologie du paysage », les différents sites conversent et semblent intriqués, imbriqués les uns dans les autres. Fugue musicale et paysage fugitif, le ton de la métamorphose est donné. Zachary Gaudriot-Roy souligne que le terme « percer » présente dans le titre de l'exposition, s'explique ainsi. Une image qui semble venir de nulle part, comme une percée dans un ciel ombragé. Ces percées s'incarnent aussi dans les cocasses contaminations visuelles de certaines signalétiques urbaines. Exemple de la photo où se jouxte un panneau « Envie d'aventure » avec une plaque « Jésus tombe pour la troisième fois ». Ou encore un panneau « Déviation » tronqué derrière une armoire urbaine de raccordement électrique. Déviation et raccordement, le photographe sait immortaliser la signalétique dans des oxymores inattendus et burlesques. L'exposition Percée, une mythologie du paysage, propose également le travail de Fanny Vandenkeller, qui interprète de manière tout à fait atypique le côté formel des sommets alpins. La photographe nous apostrophe avec des parallèles formels. Voyons-nous une montagne ou pas ? Saisie en plan rapproché, on ne sait pas si l'image révèle une bâche ou une montagne. Ce qui m'a rappelé l'approche du photographe Mathieu Pernaud dans sa série « Migrants » récemment exposée au Musée des Beaux-Arts de Lyon dans l'exposition consacrée aux drapés. Les migrants de Mathieu Pernaud étaient photographiés dans leur sommeil, le corps caché par un tissu, un drap ou un sac de couchage. Hommes recouverts ou sculptures dans un drapé, le doute persistait également. S'en tenir à ce que tout le monde peut voir, à condition de bien vouloir regarder, voilà le trait d'union des escapades du tandem de cette deuxième exposition. Rappel, l'exposition « Percée, une mythologie du paysage » est à l'Abat-Jour jusqu'au 25 février. Plus d'informations sur labatjourphoto.com. Quant à l'exposition « Traverse à l'espace Le Simone », elle marquera son clap de fin le 3 mars avec une lecture de Jindra Quatrecheville, accompagné en musique par Stéphane Libert. Plus d'informations sur lesimone.fr.
Merci beaucoup, Gaëlle.
Guillaume, cette semaine, tu évoques un balado-livre, celui de Séverine Daucourt. Tu nous en avais parlé dans un de tes coups de cœur. Eh bien, on t'écoute.
Oui, alors je pense que vous ne connaissez pas Séverine Daucourt. Alors je fais un petit peu son CV. Elle se décrit comme une poétesse, uniquement une poétesse. Alors en fait, si on regarde un petit peu ses études, bon, c'est quelqu'un qui est psychologue et qui aussi parfois traduit des textes, notamment des textes islandais, parce qu'elle parle islandais, les textes des chansons, par exemple, de Björk, en tout cas de son parolier. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, mais vraiment elle se définit comme une poétesse. Et donc elle sort un balado-livre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un balado-livre ? Moi je n'en sais rien au départ. Et donc la logique, ça serait que ça soit un texte. Et quand effectivement, eh bien, on va scanner un QR code, eh bien, on va entendre la voix de Séverine Daucourt et puis l'accompagnement musical sur certains textes. Alors attention, c'est vraiment un objet sonore poétique militant non identifié. Ce livre s'intitule Transparaître encore, donc ce balado-livre, pardon, mais Transparaître encore était à l'origine un livre de poésie. Et donc c'est un livre là qui s'écoute avec un QR code. Et donc la liberté et l'engagement de Séverine Daucourt dans ce livre sont vraiment totales pour celle qui sème à dire qu'elle souffre de troubles poétiques envahissants. Je trouve l'expression assez belle. Alors d'abord, il y a cette voix qui vous caresse et presque vous gifle en fait. Séverine Daucourt, elle casse les codes, elle détruit les cases, bouleverse nos certitudes, remue nos émotions les plus enfouies. La poésie pour réveiller, pour déclencher, les mots pour aider, une forme de thérapie verbale. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre à la source, voir l'absence en face, tentatrice, voir la perte, le perdu. On avait découvert Séverine Daucourt ici à Lyon lors de la carte blanche de Bertrand Belin et de la Féline à l'Opéra Underground de Lyon, avec donc ce livre « Transparaître encore » qui nous avait traversé, pénétré, transpercé, parce que sur scène, vraiment, sa voix est très particulière. Elle aime les mots, mais elle aime surtout dire les mots. Une soirée qui avait laissé des traces profondes et beaucoup de questionnements. Donc avec « Transparaître encore », c'est une sorte de manifeste littéraire et musical. Elle se questionne, nous questionne. Elle renverse les paradigmes en témoignant du, c'est elle qui l'exprime, du drame féminin, avec sincérité et droiture. À l'origine de ce balado-livre, donc c'est un poème publié en 2019, et les éditions Lanskin, c'est pareil, c'est une très belle maison d'édition avec des très très beaux livres. Cette écriture est sonore, viscérale, et la lecture qu'elle nous en fait de ce texte nous chamboule. Donc voici donc le 15 février 2023, sa version musicale, réalisé et arrangé par Armel Pioline, qui a participé sans doute au groupe, le plus grand groupe français de l'histoire de la musique des années 90, le groupe Holden, et qui participe à un groupe qui s'appelle Super Bravo. Et puis aussi Michel Péteau, qui fait partie de Super Bravo, et d'un groupe que j'avais déjà présenté aussi, qui s'appelle Cheval. Donc c'est un objet hybride pop.
Laura, 35 ans, psychologue scolaire. Sarah, 49 ans, CPE à Paris. Chana, 45 ans, coiffeuse à Reims. Isabelle, 43 ans, institutrice à Orléans. Béatrice, 40 ans, prof d'art plastique à Toulouse. Debbie, 40 ans, opticienne. D'autres utilisateurs ont été intéressés par des vidéos sur les thèmes anal mature, belle mature, beurette mature, cul mature, gangbang mature, lesbienne mature, mature amateur, mature chatte poilue, mature française, mature gros sein, mature levrette, mature nue, mature salope, partout mature, trio mature, vieille mature. Jusqu'à 35 ans, on est une rousse, une asiatique, une BBW, big beautiful woman, une beurette, une black, une blonde, un gros cul, des gros seins, une japonaise, une jeune de 18 ans, une latina, une lesbienne, une maman ou elf, mother I'd like to fuck, une belle-mère, des petits seins, des pieds, une russe, une soumise. Apparemment, sans profession. Après 35 ans, on devient sorcière ou femme active. Il faut donc être adulte au plus tôt, travailler illico, sinon risquer d'être condamné à rester O-J-E, objet de jeunesse éternelle.
C'est du spoken word, mais il y a des morceaux musicaux très rock qui pourraient se rapprocher du Velvet. Pour moi, c'est une sorte de pronunciamento indomptable, intrépide, généreux. On est fasciné par cette symphonie des mots et du corps qui réveille les consciences, par le travail sur la musicalité des mots, sur leur scansion enivrante. La complexité des relations est au centre de ce projet intense, parfois violent, frontal, sans être trivial. C'est un texte féministe, mais sans tabou, sans jugement, un engagement fort dans une forme de transparence avec un travail minutieux de la langue. Alors ce qui est passionnant aussi, c'est que bon, c'est vrai que ces derniers temps, le féminisme avec MeToo, et c'est bien normal, a surgi dans l'espace public, mais parfois il y a un féminisme un petit peu agressif vis-à-vis de la gente masculine. Or là, c'est pas du tout ça. Justement, elle se pose beaucoup de questions et finalement, elle, je ne dis pas qu'elle met en accusation les femmes, mais elle fait réfléchir sur effectivement ce que c'est que le féminisme quand on est une femme. Et je trouve ça vraiment passionnant. Donc ce texte est très fort. Il y a une forme, oui, comme je le disais, une forme de transparence. Et le premier extrait, mature, qu'on peut voir sur YouTube et qu'on mettra sur le site, s'ouvre par un avertissement qui est assez drôle. J'ouvre les guillemets. Cette vidéo contient des images inhabituelles, notamment des gros plans sur des visages de femmes de plus de 50 ans, sans maquillage ni retouche. Donc voilà un petit peu l'esprit de ce texte chanté. Donc âme sensible s'abstenir, c'est elle qui le dit. Si le son est très velvétien, vraiment ça, il y a des grosses guitares sur ce morceau. Point de femme fatale dans cette litanie effrayante pour celle qui fait la grève du mirage, se sauve la peau et déclare son âge en fait. Parce que oui, il y a ça, il y a aussi tout un discours sur, effectivement, les femmes de 50, 60, 70 ans, voilà, et cette espèce d'injonction à la jeunesse en ce moment, avec les réseaux sociaux et tout ça, d'accord. Donc il faut donc écouter attentivement Transparaître encore, et regarder celles qui osent le naturel, la lenteur du temps, la vie des profondeurs, l'inattention assumée, dénuée de rivalité, celles qui bravent le pire. Elles n'attendent plus, s'en réjouissent et douces comme une plume, mes modèles signent la mort de cette enclume de convoitise. Elle aime vraiment les mots, il y a beaucoup d'allitération. Moi, c'est vraiment un des textes que j'aime entendre. Et donc, je pense qu'il faudra acheter ce balado-livre qui paraît le 15 février aux éditions Landskin dans la collection Les livres à cinq pattes.
Merci beaucoup, Guillaume. Tu reviendras, j'imagine, avec ton balado-livre quand tu l'auras acheté ou
tout
reçu.
Tout à fait. Et je précise que
éditions.
C'est très peu cher puisque c'est, je crois, 12 euros. Donc, on peut le noter.
Très bien. On reparlera de cet objet, effectivement, qui est le balado-livre. On termine avec les Gédéons, coup de cœur du moment. Gaëlle, quel est ton Gédéon cette semaine ?
Alors, mon Gédéon de la semaine est une exposition de photos prises sans appareil photo. Intriguant. Aussi, comment nommer l'artiste ? Photographe ? Ou plus précisément plasticien, car l'auteur explore invariablement le médium photographique. Son nom, Ibn El Farouk, qui travaille entre Paris et Casablanca. La galerie Regard Sud, en haut des pentes de la Croix-Rousse, l'accueille actuellement avec l'exposition « Décalcomanie d'émulsion ». Tout un programme, tout un périple. Un vaste sondage plastique dans l'univers chimique de l'enregistrement photosensible. Transfert, décalque, report, pliage, superposition de surface. Ibn El Farouk n'épuise aucune expérimentation. Ces images suscitent une incontestable invitation au voyage, car sans référence à un réel commun, elles sollicitent sans cesse notre imaginaire. Ibn El Farouk s'intéresse à la substance même de l'image encore, photo fantôme, c'est-à-dire avant même son apparition. L'auteur réactualise les débuts de l'histoire de la photo en proposant une ode à la matérialité des images et à leur peau fragile. Résultant de multiples explorations faites à partir de la pellicule à l'état brut, son approche frôle l'abstraction et foisonne de représentations informelles. À ce titre, de nombreuses œuvres se nomment « palimpsestes ». Les idées sous-jacentes de réécriture et de superposition convoquent l'histoire même de la mémoire de l'image. En donnant à voir un autre visible, un autre réel, plus atypique, définitivement plastique et expérimental, l'artiste jongle tout autant avec la matérialité que l'immatérialité. Au-delà des expérimentations sur la matière, relevez également l'énergie lumineuse qui rappelle combien la photo est une écriture de la lumière. Chez Ibn El Farouk, les éclats sont quasiment luminescents et les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes, nées de recherches faites sur les substances gélatineuses, sont dans leur composition organisées en strates avec un rendu phosphorescent qui fait palpiter l'œuvre. On effleure les pulsations et les vibrations chromatiques de Marc Roscoe. D'autres images, notamment celles de la série « Latence », tutoient l'univers aquatique. Les couleurs paraissent liquides et semblent flotter. Un univers couve. Le spectateur pourrait se frotter les yeux comme face à un mirage. Que voyons-nous ? Où sommes-nous ? Le critique d'art Jean-Louis Poitevin souligne ainsi que l'image d'Ibn El Farouk est une machine à remonter le temps. Face au remarquable simulacre plastique qu'offre la matérialité de la pellicule, seul votre voyage ne sera pas une illusion. L'exposition « Décalcomanie d'émulsion » d'Ibn El Farouk est programmée jusqu'au 18 mars 2023. Plus d'informations sur regardsud.com.
Merci Gaëlle. On mettra toutes les références, bien sûr, sur notre site. Guillaume, une petite pépite à proposer à nos auditeurs ?
Alors moi, je vais en avoir deux concerts en fait qui auront lieu très prochainement. Tout d'abord, sur la péniche Le Cyrus, le groupe Automatic City avec Mr. Day. Mr. Day joue dans Automatic City, donc c'est un groupe lyonnais. Et Automatic City, c'est un groupe qui fait un mélange de jazz, de rock, de quelque chose d'un rhythm and blues plutôt complètement, comment dire, je pourrais dire chamanique. manique, c'est peut-être ça le mot. Et puis Mr Day, on le connaît parce qu'il a sorti un album qui certes remonte un petit peu en 2012, maintenant en fait c'est 10 ans et on a très envie de réécouter sa voix soul absolument géniale. Donc c'est au Sirius et ça y est, j'ai perdu la date, mais si c'est mardi prochain, donc je crois que nous serons le 11 février, je me trompe, mais en tout cas c'est mardi prochain. Et puis un autre concert le mercredi 15 février, donc c'est pas le 11 le mardi, c'est clair que non, mercredi 15 février au Périscope, une double affiche. Quelqu'un dont on a déjà parlé, une jeune lyonnaise qui s'appelle Cassidy, qui a sorti un album l'année dernière, en 2021 plutôt, qui s'appelait Les gens heureux. C'est une très très jolie chanteuse qui chante de la pop, qui pourrait passer pour sucrée, un peu à la Françoise Hardy, mais en fait, qui est beaucoup plus profonde que ça. Et elle sera accompagnée sur ce coup plateau avec l'excellent Raoul Vignal, qui est un folkeux lyonnais et qui a un picking absolument phénoménal. Donc voilà, c'est le mercredi 15 janvier, Cassidy et Raoul Vignal au Périscope, et ça va être une très très belle soirée.
Merci beaucoup Guillaume. Alors moi, pour conclure, eh bien, je suis venue avec mon coup de cœur de la semaine. C'est une bande dessinée, La Dernière Reine de Jean-Marc Rochette. C'est le troisième album d'une trilogie alpine après Aile Froide Altitude 3954 et Le Loup. Chacun peut être lu séparément, les histoires ne se suivent pas. Le dénominateur commun, la montagne, et plus particulièrement pour ce nouvel album, Le Vercors. Pour résumer, le personnage Sandra, central de cette bande dessinée s'appelle Édouard Roux. C'est une gueule cassée qui trouve refuge dans l'atelier de la sculptrice animalière Jeanne Sauvage. Elle lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu des artistes de Montmartre. En échange, Édouard lui fait découvrir la majesté du plateau du Vercors et l'histoire du dernier ours qu'il a vu tuer quand il était enfant, au cœur du cirque d'Archiane. Il lui dévoile la dernière reine et ainsi, Jeanne a créé le chef-d'œuvre qui la fera reconnaître. Dans la veine des grands romans feuilletons du 19e siècle, La Dernière Reine croise les destins du dernier ours du Vercors et d'Édouard Roux, gueule cassée de 1914. Comme précédemment dans Le Loup, homme et animal se confrontent dans un récit puissant mêlant questionnement écologique, féminisme, histoire d'amour et histoire de l'art. Bref, ça ne pouvait que me réjouir et que m'intéresser. Les critiques semblent unanimes pour saluer une œuvre magistrale. Si vous aimez la BD, la montagne, les animaux, l'histoire de l'art, cet album est évidemment pour vous. Jean-Marc Rochette a obtenu le Grand Prix de la BD RTL 2022. Il est également connu pour être le dessinateur d'une œuvre devenue culte et qui a beaucoup voyagé, le transpersonnage Snowpiercer, adapté au cinéma par le coréen Bong Joon-ho, et récemment sous la forme d'une série sur la plateforme Netflix. Je répète les références. Jean-Marc Rochette, La Dernière Reine aux éditions Casterman. Bonne semaine, à la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.